Merci à vous de nous rejoindre. Vous êtes toujours avec nous sur Médien et sur Médien.com. Je l'annonçais tout à l'heure, ce matin on parle de claustrophobie. On parle ici de cette peur maladive, des espaces clos. On tente de comprendre donc ce trouble dit anxieux grâce à notre spécialiste en psychiatrie et notre spécialiste comme tous les jeudis matins, c'est Dr Hotman Lorabi. Bonjour docteur.
Bonjour Maliane, comment allez-vous?
Ça va très très bien, merci beaucoup d'être avec nous comme tous les jeudis matins et de répondre toujours présent à cette invitation sur Médien. Vous êtes spécialiste en psychiatrie, vous êtes également secrétaire général de l'association marocaine de psychiatrie psychodynamique à Casablanca. Alors on parle de claustrophobie ce matin. Comment peut-on la définir, tout simplement?
Elle fait partie de la grande famille des troubles anxieux, vous l'avez dit, et plus précisément, elle fait partie de ce qu'on appelle les phobies spécifiques. Et c'est-à-dire que c'est une phobie qui va se manifester, dans le cas précis de la claustrophobie, dans une situation précise, à savoir quand on est dans un lieu clos. Et ça va se produire uniquement quand on est dans un lieu clos, pour faire un petit peu la différence avec d'autres troubles, on en parlera un peu plus tard. Ouais. Et quand on parle de phobie, qu'est-ce que ça veut dire de manière générale? Ça veut dire que il y a des situations qui vont engendrer l'apparition d'une peur réellement exagérée, déraisonnée, qui va entraîner un impact sur la vie de la personne, hein, limitation sociale au niveau des activités, au niveau des rencontres, enfin plein de choses, et aussi qui va créer presque toujours une espèce d'anticipation de la situation crainte, c'est-à-dire avant même d'arriver à la situation où on va être dans un lieu fermé, eh ben on va commencer déjà à développer des symptômes de la peur. Cette peur, bien sûr, elle aura des symptômes physiques, hein, qui sont médiés par le système nerveux autonome. Ça va être des frissons, des sueurs, la tachycardie, le ventre noué, la tête qui tourne, ce genre de choses. Mmh. Et d'une manière assez intense, donc ce qui engendre une souffrance. Ça, c'est la définition de la claustrophobie, et je le reprécise, c'est uniquement limité aux endroits clos. Pourquoi je le précise? Parce que assez souvent, les gens peuvent se définir comme étant claustrophobes, alors qu'en fait, ils souffrent d'autres types de maladies, à savoir l'agoraphobie, par exemple. Et voilà, et l'agoraphobie, en fait, bon, c'est un peu les mêmes symptômes paroxystiques, c'est-à-dire au moment où on est dans une situation que l'on craint, donc c'est exactement les mêmes symptômes physiques, mais c'est juste qu'il y aura une différence au niveau des situations. On n'aura pas seulement les endroits clos, mais on aura les endroits déserts, on aura les endroits qui sont pleins de foule, on aura les autoroutes, par exemple. Enfin, voilà, ça c'est beaucoup plus l'agoraphobie, et donc c'est pas uniquement limité donc au lieu clos. Ça c'était juste pour faire la petite précision. Et enfin, pour finir un peu la définition de ce trouble, il est quand même relativement fréquent, hein, il intéresserait entre une personne sur 30 et une personne sur 40, hein, grosso modo d'après les estimations. Donc ce n'est pas quelque chose de rare.
D'accord. Alors, comment peut-on savoir que c'est assez sérieux finalement, ces signes? Alors, on a peut-être tous un peu peur lorsqu'on est dans un ascenseur. Comment faire la différence entre une simple petite angoisse d'une claustrophobie assez sérieuse?
Quand on est dans la phobie, il y a une règle, c'est qu'on va éviter à tout prix de prendre l'ascenseur. Donc, si vous voulez, à partir du moment où on arrive toujours à prendre l'ascenseur, même s'il y a une appréhension, on ne matche plus avec les critères de la phobie. On n'est pas dans le cadre de la phobie de l'ascenseur. Il y aura une appréhension pour diverses raisons, qu'il faut analyser, mais ce n'est pas une claustrophobie. Donc, la claustrophobie, elle se manifeste par l'évitement, mais systématique, hein, des endroits clos. Mmh. Et quand on va parler donc de systématique, donc c'est l'évitement systématique des ascenseurs. Alors quand on habite au premier étage et qu'on travaille aussi au premier étage, c'est pas compliqué, mais vous pouvez bien imaginer que l'impact sur la vie de quelqu'un qui doit prendre l'ascenseur pour monter au 10e étage ou même plus haut, c'est beaucoup plus compliqué. Mmh. La même chose quand on se retrouve à travers la nature de notre travail dans des espaces clos. La même chose quand on doit, à titre d'exemple, parce que c'est là que souvent les choses se révèlent, quand on doit passer des examens médicaux, des IRM, ce genre de choses. Voilà. Donc, il y a eu, dès qu'il y a eu une limitation, pour répondre à votre question, dès qu'il y a une grande limitation dans les activités de la vie quotidienne, par exemple quelqu'un qui travaille dans des bureaux et qui ne peut pas être dans un bureau de réunion fermé, c'est quand même extrêmement compliqué d'être claustrophobe. Vous voyez, oui. Il y a vraiment un impact sur la qualité de la vie qui va là, par exemple, être plutôt un retentissement sur la vie professionnelle, mais il y a quand même une souffrance. Donc c'est là qu'il faut consulter et c'est là qu'il faut prendre les choses en charge.
Est-ce qu'on peut parler de cause, finalement? Est-ce qu'on connaît les différentes oui. causes, j'allais dire, s'il y en a, docteur oui. Lorabi?
Oui, il y a des causes qui sont assez reconnues, et notamment les traumatismes qui se sont produits avec une notion de limitation des mouvements ou d'incarcération. Je dis d'incarcération autant au sens... Dieu en préserve quand il y a un accident de la route et qu'on est bloqué dans un véhicule, ou quand on se retrouve emprisonné parce qu'on a été condamné ou ce genre de choses. Voilà, ce sont des traumatismes qui peuvent générer effectivement une claustrophobie par la suite. Après, toutes les claustrophobies ne sont pas générées par des traumatismes. Il y a beaucoup de gens qui vont se découvrir claustrophobes, mais en fait depuis l'enfance.
Oui.
Mais peut-être que...
Est-ce que ça peut être inné finalement?
Je ne sais pas si c'est inné, parce que la réelle anxiété qui serait innée, ce serait plutôt la phobie qui serait innée, entre guillemets, c'est plutôt la séparation, hein, notamment la séparation maternelle. Mais oui. Si vous voulez, moi je dirais que c'est beaucoup plus dans l'imaginaire collectif, parce que quand on est enfant et être enfermé, ça veut dire qu'on est puni, ça veut dire beaucoup de choses, hein. En tout cas, ça représente symboliquement beaucoup de choses qui sont extrêmement négatives. Et voilà, et probablement, ça fait partie aussi des choses qui contribuent à l'apparition de cette phobie plus tard, à l'adolescence ou à l'âge adulte. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ne sont pas des traumatismes au sens strict du terme, comme je les ai définis auparavant, qui peuvent former le lit d'une claustrophobie pendant l'âge adulte.
D'accord. Alors, une question, bien évidemment, qu'on se pose forcément, est-ce qu'on peut en guérir, docteur Lorabi?
Absolument. Oui. Absolument. Toutes les phobies spécifiques, on peut en guérir. Le principe va principalement reposer sur les thérapies cognitives et comportementales qui vont, en fait, leur point d'orgue, c'est l'exposition graduelle et progressive à la situation crainte, notamment ici l'enfermement. Donc c'est quelque chose qui quelquefois peut aussi recourir à certains traitements quand on est dans une espèce d'urgence pour répondre à vraiment une demande où on est en souffrance, où on doit assurer des choses dans des endroits clos et qu'on redoute l'exposition à ça. Donc on peut utiliser des anxiolytiques de manière très courte et très ponctuelle éventuellement, mais comme je le disais, c'est beaucoup plus important ce qui est le plus rapide entre guillemets, mais c'est d'être dans la perspective cognitive et comportementale. Après, d'autres types de thérapies plus longues peuvent aussi donner lieu à de très bons résultats, mais à travers d'autres mécanismes où on va aller plus dans la compréhension de ce qui s'est passé étant enfant, etc. C'est le cas, par exemple, des psychanalyses. Mais bon, là, le problème, c'est qu'en général, le délai est un peu plus long, hein, pour espérer une amélioration.
D'accord. Alors, pour ces personnes qui nous écoutent, qui en souffrent donc au quotidien, quelles peuvent être vos conseils à toutes ces personnes qui en souffrent, donc, comme je le disais? Est-ce qu'il y aurait des recommandations, donc, vous en tant que spécialiste, que diriez-vous à toutes ces personnes?
Ben, moi, je les inviterai tout simplement à consulter. Je ne pousse pas à la consommation de manière générale, hein, surtout pas en système de en problème de santé, mais là, il faut consulter. Pourquoi? Je le disais en introduction, c'est que souvent on dit à tort qu'on est claustrophobe,
oui,
et c'est quelque chose d'autre, de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus impactant au niveau de la qualité de vie avec d'autres comorbidités qui peuvent être de l'ordre de la dépression, ce genre de choses. Oui. Donc quand je dis consulter, c'est une fois pour qu'il y ait un diagnostic qui soit posé, le diagnostic de claustrophobie. Et puis, la plupart des psychologues sérieux peuvent prendre en charge ce genre de troubles et avoir d'excellents résultats. Donc il ne faut surtout pas hésiter à se faire prendre en charge. C'est ça mon message.
Merci beaucoup, docteur Atmane Lorabi. Vous êtes spécialiste en psychiatrie. Vous êtes secrétaire général de l'association marocaine de psychiatrie psychodynamique. Vous étiez avec nous en direct depuis Casablanca. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions sur Médien.
Au revoir.
À très bientôt. C'est un entretien réécoutable sur notre site médien.com.